Bonjour. Merci d'être venu pour cette petite séance « Il était une fois l'homme ». Donc, je m'appelle Christophe Lambert, je ne suis pas l'acteur, comme vous pouvez vous en rendre compte assez rapidement. J'ai coécrit un ouvrage sur les séries « Il était une fois » avec Marouane Elouasti et Magali Soufflé. Voilà, c'est une sorte de making-of sur toutes les séries d'Albert Barrier, que j'ai un peu connu, que j'ai un peu côtoyé, parce que j'étais un fan. Quand j'étais tout petit, en 1978, j'avais 9 ans quand la première série est sortie. Et j'ai écrit à Albert Barrier, qui m'a gentiment répondu, et une correspondance a commencé entre nous. Et puis après, j'ai travaillé avec lui sur sa dernière série, « Il était une fois notre terre », qui parlait du développement durable. Alors, « Il était une fois l'homme », 26 fois 26 minutes, série culte des années 70. L'histoire de l'humanité en 26 fois 26 minutes. On va voir un petit peu comment Albert Barrier a choisi telle époque ou tel continent pour placer sa caméra et son marqueur temporel, sa petite horloge temporelle. Mais on va commencer par le commencement, à savoir le fameux générique de la série télé. Vous allez voir que Albert Barrier a inventé le morphing 10 ans avant Michael Jackson dans le clip Black and White. Alors là, c'est pas du morphing en 3D, c'est de l'animation classique en 2D, mais on a le personnage de Pierre qui se transforme, tel de la pâte à modeler, qui change d'époque en époque, qui change de costume, qui change d'accessoires, même de physionomie un petit peu. Et bon, la musique, vous allez la reconnaître très rapidement. Voilà. Bon, je balance le générique et on en reparle juste après. Séquence nostalgie. Pour le générique avec la terre qui explose à la fin. Alors moi, bien sûr, quand j'avais 9 ans, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans l'épisode numéro 26, le dernier épisode, qui nous propose une brève incursion dans le futur. J'étais très curieux de savoir comment les hommes allaient faire exploser la terre. Alors c'est un peu anxiogène tout ça, enfin, moi ça ne m'avait pas traumatisé à l'époque, mais il paraît que pour la rediffusion sur la chaîne Gulli au 21e siècle, la toute fin avec la terre qui explose a été sucrée, pour ne pas traumatiser nos chères petites têtes blondes actuelles. Bon, à vérifier, hein, moi j'ai pas regardé la diffusion sur Gulli, mais c'est ce qu'on m'a raconté, ce qui ne m'étonnerait pas outre mesure. Alors la musique, la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, il a fallu la compacter, il a fallu la remonter. Le morceau original fait un peu moins de 20 minutes, je crois, 17 ou 18 minutes. Il a fallu le réduire à 1 minute 30. C'est Albert Barrier, le compositeur de la série Yasuo Sugiyama, qui se sont chargés de faire ce remix, ce remontage. Yasuo Sugiyama, c'est le compositeur attitré du studio Tatsunoko, qui au Japon a assuré la partie animation. Les décors et les designs des personnages étaient faits en France. Mais toute la partie animation était sous-traitée au Japon, pour cette série-là en tout cas. et supervisé par un monsieur qui s'appelle René Borg, qui est un grand réalisateur de dessins animés de l'époque, hein, qui avait fait Oum le Dauphin, Watou Watou, les Shadok, tout ça c'est René Borg. Donc la toccata et fugue, les premiers accords plaqués à l'orgue, c'est très, très solennel, hein, on est là pour vous raconter l'histoire de l'humanité, donc ça rigole pas. Et ensuite il y a la partie fugue, qui est cette écriture contrapuntique avec deux thèmes qui se superposent par couches, un peu comme on a toutes les strates, toutes les couches de l'histoire de l'humanité qui, comme un millefeuille, là, se superposent sous nos yeux. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est que la musique s'emballe un peu à mesure que le progrès technologique s'emballe. Hein. On arrive à la fin, sur le 19e siècle, la révolution industrielle avec la machine à vapeur, la locomotive. Puis, il y a la voiture de course, l'avion et la fusée. Donc cette notion de perte de contrôle, on la retrouvera dans l'épisode 26, « Il était une fois la Terre et demain », et elle résonne vraiment avec les préoccupations de l'époque des années 70. Albert Barillet s'était basé pour ses travaux de prospective sur les travaux d'un groupe de futurologues qui s'appelait le Club de Rome, et qui s'inquiétait vraiment de la pollution, de la croissance, hein, bien avant Pierre Rabhi, et puis de la démographie galopante, de la surpopulation. Ça, c'était vraiment les grosses frayeurs en matière de prospective à l'époque. Il n'y avait pas encore tout ce qui est pandémie, manipulation génétique, tout ça, c'est venu plus tard. Mais dans les années 70, voilà de quoi on avait peur pour le futur. Et ça résonne avec toute une vague de films des années 70, des dystopies comme THX 1138 de Lucas, Silent Running de Douglas Trumbull, ou encore Rollerball de Norman Jewison, des films qui vont décrire un futur assez sombre. Et il y en a un en particulier qui me semble vraiment sur la même longueur d'onde qu'Il était une fois l'homme, c'est Soleil Vert de Richard Fleischer, qui nous décrit un monde pollué, surpeuplé. Le héros, quand il rentre chez lui, il y a des gens qui dorment dans la cage d'escalier, comme dans le dernier Blade Runner, là, 2049. Donc rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme. Je vais vous montrer rapidement le générique. On est au Festival des Utopiales, hein, de la science-fiction, donc ça me semble intéressant de vous montrer le générique de Soleil Vert. Vous allez voir qu'on feuillette aussi l'album photo de la planète Terre dans Soleil Vert. Hein. Les premières images sont en sépia, comme des vieilles photos. Puis après, une fois encore, le rythme de la musique s'emballe et le rythme des musiques s'emballe. Alors je jongle en direct live sur YouTube avec mes extraits. Deux petites secondes. On commence sur un air de ragtime au piano, musique du style Scott Joplin, qui accompagnait les films muets dans les débuts du siècle. Au début, on a des fondus enchaînés, des lents zooms avant, des lents zooms arrière. On est dans l'Amérique des pionniers, un peu la carte postale à la Mark Twain, Huckleberry Finn. Puis vous allez voir, avec la première machine, la première voiture, il y a des cuts, ça s'accélère. Il va y avoir des volets, des balayages latéraux. La standardisation, le taylorisme. Là, on est dans le split screen, c'est-à-dire des petites vignettes qui démultiplient l'image. La musique a viré au free jazz, au bebop. Les cheminées des usines qui polluent, les carcasses de voitures dans les déchetteries à ciel ouvert. On va retrouver tout ça dans Il était une fois l'homme, dans le dernier épisode. Voilà, une fois que la tour de Babel s'est effondrée, on arrive à une terre exsangue, avec des charognards qui planent sur les décharges, des mouettes, des rivières asséchées, polluées. Voyons maintenant comment Albert Barillet illustrait lui-même ses craintes légitimes.
Voilà, épisode numéro 26, il était une fois la terre.
Et après ?
Après l'homme, notre ancêtre.
Quelle époque nous vivons, mes enfants? Où est-ce que tout ça va s'arrêter?
Avec la marche funèbre, reprise en bande originale.
On est pressé, compressé, repressé. Hâtons-nous. Hâtez-vous. Il se hâte. Les usines tournent. On produit, vous produisez, ils produisent. Des articles de consommation à mettre en circulation. Mais il faut pour cela trouver, former, enrôler des consommateurs, des utilisateurs, par dizaines, par milliers, par dizaines de milliers. Pour que les usines tournent.
On retrouve l'image des cheminées qui polluent. Et pour la lutte contre les ordures, on va aller à 10 minutes 36. Le personnage du gros lutte contre les décharges qui sont anthropomorphisées sous la forme de démons. Et on a toujours la marche funèbre en bande originale.
Tout dans la nature avait été autodégradable, permettant au cycle de la vie de se perpétuer dans l'harmonie. Il n'en était plus ainsi, et le volume des déchets se trouvait multiplié par 10 à chaque décennie. Pour éviter d'être submergée, la ville se propulse vers le haut.
Ordre à toutes les armées, la guerre.
Alors on va reprendre, on va faire un petit flashback pour parler du créateur de la série, Albert Barillet. Qui est-il? D'où vient-il? Il est né en 1920, Albert Barillet. Il nous a quittés en 2009. Alors, comment je veux ouvrir ce fichier? Oui, photo, oui. Ah, SOS technicien. Ah voilà, super, ça a l'air de marcher. Donc voilà, monsieur Barillet. Bon, on ne voit pas bien. Apparemment, la vignette est un peu petite. Bon. Il est né en 1920, il est issu d'un milieu très modeste. Il a dû quitter l'école rapidement pour aider sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il en a retenu une certaine frustration. Il avait une grande soif d'apprendre. On peut peut-être trouver dans cet épisode de sa biographie l'envie qu'il a eu plus tard de transmettre et de faire des séries ludo-éducatives hein, pour transmettre le savoir aux jeunes générations. Au début des années 50, après la guerre, il est un homme d'affaires assez florissant. Alors, c'est quelqu'un qui était très débrouillard, qui avait beaucoup d'allant, qui était très convaincant. Il prospère dans un domaine qui n'est pas du tout l'audiovisuel au début, qui est la fourrure. Mais il rencontre une diseuse de bonne aventure qui lui lit dans les lignes de la main et lui dit « Avec des mains pareilles, vous devriez écrire ». Et être écrivain ou scénariste, ça lui trottait dans la tête depuis longtemps. Donc il va faire un virage à 180 degrés, se lancer dans l'écriture, dans la production et la distribution de films. Il fonde une société qui s'appelle Procidis. Il distribue des films en Europe et en Amérique du Sud, des longs métrages. Et au début des années 60, il commence à s'intéresser à la production jeunesse en télévision. Il trouve qu'à l'époque, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il a deux fils, Gilbert et Franck, qui sont tout petits à l'époque. Et il va flasher sur une série de livres-disques qui s'appelle « Les aventures de Colargol ». Des livres-disques écrits par une dame originaire de Pologne, Olga Pushkin. Il achète les droits, il adapte tous les épisodes déjà existants et il va lui-même écrire d'autres épisodes, d'autres aventures de Colargol. La réalisation de la série Colargol est confiée à un studio, enfin en tout cas l'animation image par image en stop motion est confiée à un studio polonais. Comme on est en pleine guerre froide, il y a le rideau de fer, donc ça ne facilite pas les communications entre le Procidis à Paris et le studio en Pologne. Néanmoins, la série va voir le jour, malgré le fait que l'ORTF se soit retiré au dernier moment et retiré ses billes. Donc Barillet, comme un coup de poker, a mis ses propres deniers dans la production de la série. Il en sera récompensé puisque la série va cartonner. Et Colargol va se hisser au rang des icônes de la télé jeunesse de l'époque avec Pollux du Manège Enchanté ou Nounours de Bonne Nuit les Petits et Casimir de L'Île aux Enfants. Pour la génération Gloubi-Boulga, j'en vois quelques-uns dans le public. Mais il n'a pas encore attaqué son grand œuvre, Albert Barillet. Ce qu'il veut faire depuis longtemps, c'est l'histoire de l'humanité pour les enfants. Quand il avait 16 ans, il met noir sur blanc sur le papier des domaines qu'il a envie d'explorer. L'infiniment grand, ce sera « Il était une fois l'espace ». L'infiniment petit, ce sera « Il était une fois la vie ». Et puis l'histoire de l'humanité. Il avait envie de raconter comment, de fil en aiguille, on en est arrivé à l'homme d'aujourd'hui. Alors c'est un travail de titan, il faut réunir les financements. Il va prendre son bâton de pèlerin et partir dans toute l'Europe chercher des coproducteurs. Et puis il va aussi chercher des artistes pour donner vie aux personnages qu'il a en tête. Et voilà, la galerie de personnages que maintenant nous connaissons bien. C'est un jeune dessinateur de 20 ans à l'époque qui sort de l'école Brassard. Alors là, on a des premiers croquis réalisés par Philippe Landreau, l'un des deux directeurs artistiques. Mais Barillet voulait autre chose, peut-être quelque chose de plus bande dessinée, plus franco-belge. Et il s'est orienté sur le jeune Jean Barbeau, que voici, qui sort d'une école de publicité, donc de graphisme publicitaire. Il a 20 ans, au milieu des années 70. Il est né en 55. Là, on voit ses tout premiers essais ici. En fait, il travaille, l'un de ses professeurs à l'école Brassard s'appelle Bernard Derriès, qui plus tard fondera la DIC et des séries comme Inspecteur Gadget ou Jace, les Conquérants de la Lumière. Donc Bernard Derriès, Ulysse 31 aussi, bien sûr. Derriès informe Barbeau qu'un producteur parisien, Albert Barillet, cherche un designer pour ses personnages. Il y a un appel d'offres, comme ça. Sans trop y croire, Barbeau, en un week-end, griffonne des petits bonshommes. Il envoie les essais à Barillet, à Procidis, rue Marbeuf, dans le 16e. Et là, Barillet va avoir un coup de cœur pour ses personnages, tout en sachant qu'il va falloir les retravailler. Il va falloir allonger la barbe de Maestro, là, qui est encore trop courte. Il va falloir qu'elle devienne un fourre-tout où on peut ranger des télévisions, des baguettes, des phares passés, plein d'autres choses. Le nabo, là, il est brun, il est basané. Il va falloir, le transformer en petit rouquin diablotin avec des cheveux qui accentuent son côté sournois, hein, les flammes de l'enfer, hein, des petites flamèches sur la tête. Donc en fait, tous ces personnages, l'idée est géniale. L'idée, c'est d'avoir les mêmes personnages à des époques différentes, sur des continents différents. Il y avait déjà des sagas historiques qui suivaient des personnages de génération en génération. Des gens comme James Michener avaient fait Colorado, Centennial. On suivait comme ça de la préhistoire à nos jours. On commençait par les Amérindiens, puis les cow-boys, etc., etc. Mais là, ce qui est génial, c'est que les personnages sont des emblèmes, sont des symboles, et on les retrouve à des moments clés de l'histoire de l'humanité. Alors, ces moments clés, comment les choisir? Bon, il y a des choses incontournables, hein, comme le Moyen Âge, la Révolution française, ou dans l'Antiquité, les Égyptiens, ce sera l'épisode 4, les vallées fertiles, les Grecs avec Périclès, épisode numéro 6, et puis Pax Romana, les Romains. Mais à d'autres moments, Barillet va essayer un peu de composer avec ses chaînes coproductrices. Donc il y aura un épisode sur l'Espagne, il y a une chaîne espagnole qui met de l'argent dans la série. Ce sera l'épisode 15, le siècle d'or espagnol, sur Charles Quint. Il y aura un épisode sur l'âge d'or des Provinces Unies, télévision luxembourgeoise, l'essor de la Compagnie des Indes Orientales. Et puis il y a les Vikings, épisode numéro 10, l'âge des Vikings. Alors là, les chaînes scandinaves sont très pointilleuses, ne veulent pas que l'on dise du mal de leurs ancêtres, les Vikings. Donc Albert Barillet va s'appliquer à dépeindre les Vikings sous un jour plutôt paisible et sympathique et pas du tout belliqueux, conquérant. Il y aura un petit peu de pillage, mais ce sera vraiment à la toute fin de l'épisode. Hein. Et puis les conquêtes de l'islam, alors là, bon, il vaut mieux éviter de froisser des susceptibilités que nous connaissons bien. Le prophète Mahomet sera toujours représenté de dos ou de trois quarts dos. Alors pourquoi un épisode avec Mahomet en vedette et pas un autre avec Jésus? J'avais posé la question à Albert Barillet, il m'avait dit que Mahomet, en plus d'être une figure religieuse de premier plan, avait été une figure géopolitique de premier plan aussi. Donc c'est pour ça qu'il y avait un épisode consacré à ce personnage. Je vais vous parler d'une... Là, on a parlé des chaînes européennes. Il y a bien sûr une chaîne française qui donne le green light, le feu vert. C'est FR3, France Région 3 à l'époque. Et la dame qui s'occupe du programme, des programmes jeunesse. Ah voilà, le petit marqueur temporel, personnage important, qui au départ était juste une sorte de radio-réveil avec des chiffres digitaux. Et puis les storyboarders se sont amusés à rajouter des gags avec ce personnage. Ils lui ont rajouté des bras. Donc ça a été un ping-pong entre Jean Barbeau au graphisme et les storyboarders. Barbeau a rajouté des yeux, des mains, des bras de plus en plus agile, ce qui permettait de faire des petites scénettes avec ce personnage, qui souvent rappelle Maestro à l'ordre, parce que Maestro, qui est l'alter ego d'Albert Barillet, hein, le vénérable personnage qui donne le savoir aux plus jeunes, Maestro a souvent un coup d'avance sur la technologie de l'époque. Hein, donc le marqueur temporel essaye de le rappeler à l'ordre régulièrement. Maestro qui est doublé par Roger Carrel, qui fera également la voix off dans la première série et qui fera aussi Pierre, le personnage de Pierre, et un peu le nabo avec Patrick Préjean. Voilà Hélène Fatou, directrice des programmes jeunesse à l'époque. Alors Albert Barillet lui montre deux épisodes qu'il a tournés à ses frais, deux épisodes pilotes, celui sur les Romains et celui sur l'homme de Cro-Magnon. Elle est tout de suite intéressée, mais elle a envie de faire un test auprès de son public cible. Donc elle fait venir des collégiens de banlieue, enfin même des fins écoles primaires de banlieue, dans un cinéma parisien. Elle a loué un projecteur 16 mm, puisque les films sont enregistrés en 16 mm à l'époque. Et on projette les deux épisodes aux gamins, qui sont morts de rire, applaudissent et réclament une deuxième projection dans la foulée. Donc la séance qui devait durer 52 minutes durera en fait près de 2 heures. Et les enfants repartent chez eux ravis. Et Hélène Fatou est convaincue à partir de ce moment-là de tenir un succès. Et le succès sera au rendez-vous. Alors elle a une idée assez géniale, cette brave dame. C'est qu'elle a vu un créneau se libérer à 19h55, juste avant les jeux de 20h. Un petit créneau de 5 minutes. Donc elle demande à Albert Barillet de segmenter en 6 parties chacun de ses épisodes. 6 petits blocs autonomes qui, quand même mis bout à bout, formeront une histoire complète. L'idée, c'était que les enfants pouvaient tous les soirs voir un épisode avec leurs parents. Et si jamais ils avaient raté un épisode dans la semaine, le samedi à 18h30, il y avait la rediffusion complète de l'épisode de la semaine. Alors l'horaire de 19h55, justement, facilite ce dialogue intergénérationnel. Parce que contrairement à Récréa 2 qui était à 17h, à 17h les parents rentrent du boulot ou sont encore au boulot et ils n'ont pas le temps de partager un programme avec les enfants. Alors qu'à 19h55, on a mangé ou on va manger, ce sera bientôt l'heure d'aller se coucher et c'est une petite friandise avant d'aller se coucher. Donc on regarde ça en famille et puis il y a beaucoup de questions qui se posent hein, parce que la voix off notamment, écrite par Barillet et dite par Roger Carrel, elle est au niveau du vocabulaire, elle est très riche, elle est très ambitieuse, hein, ça brasse beaucoup de thèmes, c'est assez complexe. Même si au premier plan, il se passe toujours des poursuites, des bagarres, des coups de poing, des pitreries, il y a quand même ce fond qui est assez ambitieux, pour ne pas dire très ambitieux. Donc moi, je me souviens qu'à l'époque, je demandais régulièrement à mes parents une explication sur tel ou tel mot de vocabulaire, hein. Monotone litanie. Monotone, je voyais à peu près ce que c'était, mais une litanie, j'avais jamais entendu ça, donc mes parents m'expliquaient. Voilà, la philosophie de Barillet, c'est toujours de mettre la barre un petit peu au-dessus de la tête des enfants et de ne pas les prendre pour des idiots et ne pas considérer la télé comme une babysitter devant laquelle on va coller les gamins pour être tranquille. Voilà, c'est un objet de pédagogie et de service public tel qu'il devrait être en théorie. Alors, les 6 segments, au début, c'est une contrainte hein, pour Barillet. Il n'avait pas prévu de faire 6 petites parties à l'intérieur d'un épisode. Il va quand même accéder à la demande d'Hélène Fatou et il va faire la même chose à chaque fois. Le premier segment, c'est toujours une sorte de récapitulatif de la situation quand l'épisode démarre, à l'endroit où Barillet pose sa caméra. Le deuxième segment, c'est l'émergence d'une civilisation, d'un empereur, d'un roi, d'une société comme la Compagnie des Indes orientales. Et puis, dans les segments 3 et 4, il y a une montée en puissance, il y a un apex. Et l'épisode 4, généralement, le segment 4, c'est la vie quotidienne à cette époque-là. Donc là, Barillet, un peu comme Goscinny dans les albums d'Astérix, va, à travers une époque donnée, faire une satire de ce qui se passe de nos jours, hein, des problèmes contemporains. Dans l'épisode 18, le grand siècle de Louis XIV, il se moque des embouteillages dans Paris en transposant ça à l'époque des chaises à porteurs. Dans l'épisode 3, le Cro-Magnon, il se moque de l'urbanisme et des barres d'immeubles en transposant ça dans les grottes type Lascaux avec des hommes préhistoriques à tous les étages. Voilà. Donc là, c'est un petit côté Goscinny. Et puis à partir du segment 5, généralement, il y a un déclin. Vous savez que les civilisations ont une vie cyclique. Hein. Elles vont grandir, croître et puis décliner et mourir. Et Barillet entame le déclin dans le segment 5. Si l'épisode dure sur plusieurs saisons, le segment numéro 5, c'est celui où il y a l'hiver, où il y a la pluie, il y a le froid, les glaciations dans l'épisode du Néandertal, il y a souvent le ciel qui se couvre, il y a de l'orage, il y a de la famine, de la peste, il y a ça dans l'épisode sur les Grecs, Périclès, la guerre éclate. On a les croisades dans les bâtisseurs de cathédrales. On a la Première Guerre mondiale dans À la Belle Époque. Donc c'est l'épisode où ça se gâte. Souvent, la mort frappe à ce moment-là. Pierre est tué dans L'Âge des Vikings. Le Gros est tué durant les croisades dans les bâtisseurs de cathédrales. Maestro va mourir aussi une ou deux fois. Et l'épisode, le segment 6, c'est celui du crépuscule. On arrive vraiment à la fin de la civilisation et il y a généralement une petite ouverture sur la civilisation suivante. Donc on est vraiment dans une construction cyclique. Alors comment Barillet va-t-il illustrer ça visuellement ? On est dans une série télé, donc il faut que ce soit visuel, audiovisuel. Il va illustrer ça avec le soleil. On va souvent avoir des levées de soleil dans les segments 2 et 3, quand la civilisation monte en puissance. Et puis, à partir du 5, vous allez voir, le temps se couvre. Et dans le 6, ça se termine généralement par un coucher de soleil aux couleurs flamboyantes, un peu mélancoliques, un peu nostalgiques. Donc voilà, il y a tout un travail sur la course du soleil, calqué sur le trajet, la trajectoire de la civilisation. Je check rapidement l'heure pour savoir où j'en suis. Je vais vous montrer 2-3 extraits pour illustrer ce que je viens de dire. Et puis après, on passera aux questions, si vous le voulez bien.
On va commencer avec... Jamais la guerre est déclarée aux ordures.
Après, l'homme, notre ancêtre, a essayé de s'établir dans la paix. D'après les documents...
L'épisode sur les Perses...
2000 ans avant notre ère.
Mais est-ce que je dois allumer le bûcher, Majesté ? Quoi ? Oh là là, si c'est pas malheureux de voir ça.
On va voir l'émergence de Darius.
À l'usurpateur, le mage Smerdis s'est emparé du trône de Perse. Sept princes du royaume.
Je remets le lever de soleil, c'était quand même ça l'idée.
À l'usurpateur, le mage Smerdis s'est emparé du trône de Perse. Sept princes du royaume sont résolus à en finir. Les conspirateurs ont décidé que celui dont le cheval hennira le premier sera l'élu. Voici Darius. Voici Darius Ier.
Voilà, Darius est au zénith de sa puissance, donc on a le soleil plein cadre.
Darius les combat avec énergie.
Alors maintenant, quelques exemples de vie quotidienne. Alors par exemple, l'épisode 18, le grand siècle de Louis XIV. On va voir comment la circulation dans Paris.
450 000 habitants.
Ça avait déjà pas l'air simple avant Anne Hidalgo, mais.
Les imposantes tours de la Bastille.
Ce sera.
Le palais du Louvre. Et sans transition, à l'ouest, nous voici à la campagne, dans les champs.
Avec la petite musique bien connue. Hop là.
Oh bah non, ça va, c'est bon.
Espèce de fou.
Ces gens-là sont des conducteurs de dimanche.
Non mais vous plaisantez ! Ça alors vous allez fort !
Mais vous n'aviez pas la priorité, enfin. Mais enfin, je rêve ou quoi? Moi, j'arrivais de droit, donc vous m'avez refusé la priorité.
Bon, on va faire un constat, c'est pas difficile.
Merci.
Voilà, donc là, on est dans un humour de type Goscinny, hein, où il y a un côté satire social, pamphlet. Segment numéro 5, ça se gâte, le temps se couvre. Alors, on a la glaciation dans l'homme du Néandertal.
Alors que tourne l'horloge du temps, le pithécanthrope évolue. Sa boîte crânienne se redresse, s'élargit, ses membres, ses mains vont aussi s'humaniser. Le cinécanthrope, le Swanscombe ou Montmorin. C'est une glaciation qui s'annonce. Mais comment nos amis le sauraient-ils ?
Non mais qu'est-ce qui se passe ?
Ah, je ne sais pas, je n'y comprends plus rien. Il faut faire qu'on veut partir au sud. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a vraiment plus de
gibier. On va avoir la peste et la guerre avec Sparte dans l'épisode 6, le siècle de Périclès.
La naissance de l'Europe. Le berceau de la jeune civilisation a longtemps vogué au cours tumultueux des fleuves fertiles. Le voici qui a pris le large pour venir aborder au rivage du Nil, la contre moins pacifique.
Regardez comme le ciel se couvre, devient orageux.
A accédé les autres cités. C'est de nouveau la guerre avec Sparte.
Surtout, promettez-moi d'être prudent.
Vraiment.
Alors, il n'y a jamais une nation composée exclusivement de teigneux ou exclusivement de bons gros. Il y a toujours des teigneux et des gros dans chaque camp. La dominante de couleur est très, très grisâtre. Hein.
429, atteint à son tour par la peste, Périclès va mourir.
Et puis dans l'épisode 18, le grand siècle de Louis XIV, c'est la pluie qui va être 1680, mise à l'honneur.
Paris. 450 000 habitants.
Toujours des couleurs assez froides.
Oh, un rat, quelle odeur, ma chère.
Barrier va reprendre le gag des eaux usées, hein, de la femme qui balance les eaux usées par la fenêtre.
Tenez, mon brave.
Gare à l'eau.
Comment va-t-il?
C'est assez grave, hein, pour le ton est assez grave. Un bébé qui meurt, bon, je ne sais pas si on pourrait faire ça aujourd'hui. Hein. Le crépuscule, dans le siècle de Périclès, on va avoir un beau coucher de soleil à la toute fin.
La naissance de l'Europe.
À 23 minutes 30.
Le berceau de la jeune civilisation a longtemps vogué au cours tumultueux des fleuves fertiles. Le voici qui a donné vie à la pierre.
Oh,
Et Périclès,
maestro, est ostracisé.
A succédé Platon, un Platon Aristote. Et quand Philippe de Macédoine, un lointain cousin pauvre, va unir la Grèce sous sa tutelle en 338, c'est Aristote qu'il chargera de l'éducation de son fils Alexandre. L'homme le plus intelligent de son époque va former l'esprit de celui qui va devenir le plus grand conquérant de son époque. Conjonction rare. Mais avec Alexandre le Grand, l'esprit grec s'égare dans son immense empire. Il ne se retrouvera jamais. Il n'était fait qu'à la mesure de l'homme. Et la pensée philosophique, scientifique, artistique va s'assoupir pour 2000 ans. Alors seulement, belle au bois dormant, elle repartira du même point.
Même chose dans le siècle d'or espagnol, et j'en finirai avec ça. On va avoir un beau coucher de soleil avec les personnages de Cervantes, Don Quichotte et son compagnon. Et une autre métaphore, celle de la forêt, pour montrer que l'Espagne est complètement... Pour montrer que l'Espagne est complètement épuisée, on va avoir une forêt avec des arbres abattus. Des arbres qui ont servi à construire toutes les armadas et les flottes d'exploration.
En 1558, Charles Quint s'éteint. Il a lutté, dit-il, non par ambition, mais pour le bien de ses états et de ses peuples.
Voilà, là, on va voir la forêt. On avait vu au début de l'épisode cette forêt riche, verdoyante.
La France, Philippe II est vainqueur. Mais dans quel état se trouve le pays ? En 1571, Lépante, une grande victoire vient galvaniser l'Espagne. Un jeune combattant y perd une main, la gauche, heureusement. Il se nomme Cervantes. En 1588, auréolé de la gloire du siècle d'or de l'Espagne, l'invincible armada vogue vers l'Angleterre. Et que va-t-il rester de tant de grandeur ? L'austère, l'imposant Escorial, Lope de Vega, image des grandeurs et contradictions de son époque, la pure flamme de Sainte Thérèse d'Avila, le Greco et Cervantes. Le manchot de Lépante,
voilà.
Et son immortel
coucher de soleil. Donc ascension, déclin, ça me semble assez clair. Quelle heure est-il ? 13h45, parfaite synchronisation. Nous allons pouvoir avoir des questions si vous voulez, ou pas, je sais pas. Voilà, qui... Monsieur, oui. Merci à vous. Alors, il faudrait trouver un angle d'attaque. Vous aimeriez une autre série, Il était une fois, ou que quelqu'un d'autre, avec un angle d'attaque différent, se frotte à l'histoire de l'humanité ? Bah, Barillet a essayé de creuser un peu ce sillon avec les Amériques, les découvreurs, les explorateurs, qui étaient, à mon avis, moins réussis que la série initiale. Mais oui, c'est dommage, c'est dommage. Mais alors, vous savez, les séries actuelles et la politique éditoriale des chaînes, c'est quand même plus d'aller vers les super-héros et les adaptations de bandes dessinées, de franchises qui marchent déjà, que de proposer des choses un peu audacieuses. Honnêtement, ça me paraît difficile. Enfin, je suis pas dans les hautes sphères des conseils des chaînes télé, hein, des lignes éditoriales des chaînes télé, mais on peut pas dire que l'audace soit à l'ordre du jour. L'avantage d'Hélène Fatou dans les années 70, c'est qu'elle était toute seule pour décider. Sur un coup de cœur, elle pouvait faire un gros chèque, alors que maintenant, il faut passer par tout un tas de comités. Les chaînes, le service public, c'est une usine à gaz monstrueuse, quoi. Il faut passer par tous les étages, tout le monde donne son avis. Pour peu que le dernier président en date soit parti grâce au jeu des chaises musicales, le nouveau va faire table rase de tous les projets qui étaient dans les tuyaux. Et comme ça, il y a plein de choses qui finissent dans des tiroirs. Et c'est très très dur de faire aboutir des choses, quoi. même pour Hélène Barrier, qui est la veuve d'Albert Barrier, donc qui a pris la succession de Procidis, qui dirige la société Procidis. Apparemment, c'est pas si évident que ça d'enclencher sur des choses nouvelles, quoi. Bonjour. Écoutez, je ne sais pas si c'est parce que 26 fois 26 minutes, ça sonnait bien, le chiffre était symétrique, mais il me semble que oui, c'était déjà les standards de l'époque. Alors vous aviez des choses très courtes comme les Anna Barbera, alors là c'était à l'infini, hein, les Satanas, les Diabolo, les Tom et Jerry et tout ça, il y en avait des à foison. Mais sinon, non, les choses de 26 minutes, il me semble que la première saison de Goldorak ou la première saison de Candy, ça doit être dans ces eaux-là aussi, hein. Ah oui, il y avait moyen d'en faire plus, il a fallu faire des choix, donc forcément c'est subjectif, hein, ce sont les choix d'un homme, Albert Barrier. Moi je lui avais demandé par exemple pourquoi il avait rien fait sur Napoléon, qui me semblait un personnage important, même au-delà de l'échelle française, hein, à l'échelle européenne, et il n'aimait pas du tout Napoléon, il m'a dit non, c'est un boucher, et je veux pas faire 26 minutes sur un boucher. Donc Napoléon apparaît brièvement... à la toute fin de l'épisode sur la Révolution française, le 22, mais ça ne va pas plus loin. Ouais.
Vous avez parlé de l'homme. Effectivement, c'était lui qui a fait ses choix, et notamment avec ce choix sur de ne pas faire apparaître Napoléon. Est-ce que vous n'avez pas aussi peur, enfin, même par rapport aux certaines lignes qu'il a dû prendre par rapport à ses partenaires, qu'on a quand même, malgré une histoire, mais une prise de vue. Et des fois, enfin, j'ai regardé ça quand j'étais plus jeune, parce que j'ai les cassettes, et j'ai trouvé ça absolument génial. Mais avec le recul, des fois, j'ai l'impression que il n'y a pas une impartialité totale qui peut être, disons, mieux si on fait, disons, de l'éducatif et de l'historique.
Sur quel traitement ? Le traitement de différentes races, différentes...
Pas forcément les races, surtout les personnages. Enfin, ouais. Quand on parlait d'un peuple, il y avait ce côté, il monte, ce déclin, et à la montée, on avait très peu de nuances. Enfin, j'avais souvent l'impression que les personnages qui sont clés de l'histoire étaient presque idéalisés.
Il me semble pas, hein, parce que même le héros Pierre, qui est l'homme de tous les jours confronté aux problèmes de son temps, bah, par exemple, il a un côté un peu réactionnaire, il n'est pas très progressiste. C'est plus son fils, Pierrot, et sa femme, Pierrette, qui le poussent à aller de l'avant. Mais lui et le gros ne sont pas forcément pour le changement. L'épisode du Néandertal, il faut vraiment que ce soit Pierrot qui montre comment on frotte les silex pour faire du feu, parce que son père n'en voit pas l'utilité comme ça de prime abord. Il veut continuer à manger de la viande crue, il veut pas manger de la viande cuite. Alors encore plus réactionnaire, il y a le Teigneux et le Nabo qui, eux, veulent zéro changement. Et qui souvent, le Teigneux et le Nabo, sont du côté, alors pas forcément de la classe supra-dominante, mais dans une espèce d'entre-deux. Ce sont des comtes, des barons. Ils ont un côté un peu Louis de Funès, c'est-à-dire qu'ils oppriment les petites gens qui sont en dessous d'eux, Pierre et le Gros, et ils sont très obséquieux avec ceux qui sont au-dessus, hein, Charlemagne dans les Carolingiens, par exemple. Et on peut aussi noter un parti pris qui m'avait semblé, que j'avais pressenti, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus quand j'étais gamin, c'est le côté un peu bouffeur de curé d'Albert Barrier. Les personnages de prêtres sont rarement dépeints, ils sont toujours un peu bedonnants, un peu lâches, et quand Maestro est un député dans la convocation des états généraux dans l'épisode sur la Révolution française, Maestro n'est bien sûr pas dans l'aristocratie ni dans le clergé, mais fait partie du tiers état. Donc ouais, c'est tout ça est coloré des subjectivités d'un homme, puisqu'il avait le côté homme orchestre en plus, hein, il supervisait tout, le mixage, les storyboards, les graphismes. C'est un boulot d'artisanat assez, assez fabuleux, quoi.
Oui, bonjour. J'ai une petite question sur, tout simplement, le travail de recherche de ces séries et la réalité un peu historique, parce que vous parliez de l'humour à la Goscinny. Goscinny, c'était totalement assumé dans l'Astérix, que c'était transposé à notre monde actuel. Mais justement, est-ce que d'ailleurs, déjà, c'est pas un petit peu dangereux d'ailleurs de montrer à des enfants des gags qui pourraient un petit peu justement confondre la réalité de l'époque et justement le gag qui parle peut-être plus à l'adulte, par exemple le cas des embouteillages, ouais. L'enfant va peut-être lui croire vraiment qu'il y avait des embouteillages comme ça à l'époque.
Tout à fait, ouais. Mais il y avait pas que de la satire sociale, hein. Il y avait aussi beaucoup de burlesque dans la tradition d'Harold Lloyd, de Buster Keaton, des portes qui claquent, des gens qui trébuchent, des coups de poing entre le gros et le teigneux. Voilà, il y avait quand même beaucoup de pitrerie burlesque visuelle, hein. Il n'y avait pas que la satire sociale. Puis aussi, il se servait notamment des lois de l'époque, hein, le code d'Hammurabi énoncé comme ça de nos jours. Il y a des trucs assez gratinés. Pareil dans les Carolingiens. Quand on coupe la main de quelqu'un, c'est 5 sous d'amende. Quand on coupe le pied, c'est 10 sous. Enfin, il y avait plusieurs registres d'humour. Il n'y avait pas que la satire sociale à la Goscinny. Hein. C'était une des facettes de l'humour. Il fallait bien capter l'attention des gamins, hein, parce que sinon, il y avait quand même un paquet d'informations à faire passer. Donc il fallait émailler ça d'action et de gags. Ben, on m'a demandé de libérer la salle pas trop tard, donc si jamais il n'y a pas de questions, on va clore ce voyage à travers les âges. Merci.